je ne serais pas arrivée là si... Nina Bouraoui.
Nina Bouraoui. Je ne serais pas arrivée là si...
Si je n'avais pas grandi en Algérie. Ce pays m'a traversée et construite. Car ce pays tellement beau, tellement magnétique, était marqué par la violence. Ma mère l'acceptait. Ma mère française, blonde aux yeux bleus, qu'on appelait la Suédoise. Ma mère qui avait une telle passion pour ce pays qu'elle n'avait de cesse de nous le faire sillonner, ma sœur et moi, à bord de sa GS bleue. Cette lumière et cette histoire si spéciale, c'est votre lumière, c'est votre histoire, répétait-elle. J'ai commencé à dessiner et à écrire en Algérie. C'est mon terreau. Je crois que tout est là.
De quelle union êtes-vous le fruit ?
D'un mariage d'amour entre un Algérien et une Bretonne. D'un mariage politique aussi, puisque mes parents se sont rencontrés en pleine guerre d'Algérie. Et que je suis la preuve absolue que deux pays en train de se déchirer peuvent aussi s'aimer. Le frère aîné de mon père était mort au maquis. Mon père voulait s'engager à son tour, mais comme c'était un garçon très brillant, on a préféré l'exfiltrer en France afin qu'il étudie. Il débarque donc à Vannes, obtient son bac avec mention. Il est premier de sa classe, on l'appelle l'oiseau rare. Il obtient la bourse des étudiants les plus méritants de France, vit chichement, travaille beaucoup, milite pour l'indépendance de l'Algérie, obtient un doctorat d'économie. En 1960, il rencontre ma mère, étudiante en droit, fille de chirurgien-dentiste, et tous deux tombent éperdument amoureux.
Vos parents prennent donc le chemin de l'Algérie au moment où beaucoup de Français quittent le pays.
Oui. En épousant mon père, ma mère épouse aussi l'Algérie et va l'aimer follement. Ce n'est pourtant pas facile. Mais elle est courageuse et me donne une grande leçon de bienveillance et de tolérance. Ce peuple-là a souffert et moi je l'aime et je me ferai aimer. C'est une très belle femme, très sensuelle, je comprends vite qu'elle est une proie.
Un souvenir d'agression semble vous avoir particulièrement marqué.
Oui, c'est même une scène fondatrice. Parce que tout d'un coup je me dis, je sais que j'aime les femmes.
Quel âge avez-vous alors ?
Environ 8 ans. Ma mère, qui devrait être au travail, rentre soudain dans l'appartement. La robe arrachée, la peau griffée, du crachat dans les cheveux. Elle couvre ses seins de ses mains. Elle est défaite. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je pense à la bête du Gévaudan, à un monstre, pas à un homme. Mais cette scène est photographiée à jamais. C'est la chose la plus traumatisante du monde et c'est ma tragédie. Je deviens le soldat de ma mère. Je me fais la promesse de toujours la protéger. Et d'ailleurs de protéger toutes les femmes.
Pourquoi vous décrivez-vous comme une enfant différente ?
Je suis une enfant homosexuelle, je le sais. Cela ne s'explique pas, et ce n'est pas un choix. C'est ainsi, tout simplement. Je suis un peu renfermée, très solitaire, très en fusion avec ma mère. En fait, je suis folle amoureuse de ma mère. Je fais un complexe d'Œdipe inversé. Mais je trouve ma place naturelle dans ma famille aimante. Je suis le garçon, je suis l'artiste, hypersensible, un peu fragile... Tout le monde s'en accommode joyeusement. J'ai souvent demandé à mes parents « Est-ce que vous attendiez un garçon quand je suis née ?» La réponse est invariable. « Non, Nina, jamais. » Mon père était très fier d'avoir deux filles.
Et à l'école ?
Je m'habille comme je veux, en garçon. Et je ne fréquente que les garçons. Les filles disent « Nina, elle est un peu folle. » Forcément. Mais sous le préau de l'école primaire, un jour, je surprends deux institutrices dire à mon sujet « Le pire, c'est que les parents savent et qu'ils ne font rien.
Savent quoi, au juste ?
Que je suis différente. Moi, je le sais, bien sûr. Mais cette phrase est terrible. Elle condamne ma différence et juge mes parents comme des irresponsables. Ma sœur elle-même, qui a 5 ans de plus que moi, dit à mes parents « Faites attention, Nina aura des problèmes. » Elle perçoit une question de genre. Mais elle a tort. Je n'ai pas de problème avec mon corps, je n'ai pas de problème avec mon genre. Je ne suis pas une future transsexuelle, rien à voir. Je suis simplement homosexuelle. Et si j'ai un accoutrement de garçon, c'est que c'est franchement plus rigolo et parce que j'ai compris que dans ce pays si viril, la force est de ce côté-là. Mon père, d'ailleurs, se récrie « Arrêtez, Nina est féminine, elle se met de la crème Nivea tous les soirs. »
Votre famille française est-elle aussi compréhensive ?
Non. Ma grand-mère est perplexe et glisse un jour à ma mère « Celle-là sera intellectuelle ou lesbienne. » Mais c'est elle surtout qui va peu à peu m'instiller la honte d'être différente.
L'adolescence va-t-elle changer la donne ?
Vers 12 ans, la nature me rattrape. Mon corps prend de nouvelles courbes, je laisse pousser mes cheveux, il semble que je me féminise. Mais ma cartographie intérieure est inchangée. J'aime les filles de mon âge et je vis le rejet. Je confonds l'amitié et la tendresse avec l'amour et le désir. Je cherche des modèles, il y en a si peu. Je lis les Colette, découvre le puits de solitude de Radcliffe Hall, l'histoire d'une châtelaine qui tombe amoureuse d'une infirmière pendant la guerre. Puis je découvre Carole de Patricia Highsmith. Je rêve à travers Carole. Mais je suis lâche. Je garde mon secret. Je veux tant ressembler aux autres filles.
Et votre mère décide alors qu'il faut rentrer en France.
Nous sommes en 1981. Elle voit l'Algérie changer, la violence s'installer, elle a peur. Elle redoute un bain de sang. Elle interrompt nos vacances, m'expédie à Rennes chez mes grands-parents, repart à Alger en me priant d'attendre de ses nouvelles. Je dis « Mais maman, je dois rentrer à l'école. » Rien n'y fait. Et j'attends. J'attends. Fin septembre, elle m'appelle enfin. « Tu ne rentres pas, nous allons habiter toutes les deux à Paris. » J'ai 14 ans. Ma vie s'effondre. Et j'ai la haine. Toutes mes affaires personnelles sont restées figées dans ma chambre à Alger. Je n'ai pu dire au revoir à personne. « Ma fille, dit mon père, sache que l'intelligence, c'est l'adaptation. »
« Et vous vous adaptez ?»«
Oui. Je m'adapte tellement que c'est comme une deuxième naissance. » Je perds mon accent en quelques jours, je refais ma vie, je deviens une vraie Française. Et je m'inflige cette extrême violence de déchirer toutes mes photos de classe d'avant et de ne pas répondre aux lettres de mes amis algériens. C'est comme un chagrin d'amour. Je deviens infidèle à mon algérianité. Mais mon identité amoureuse me rattrape. À 16 ans, je vis une passion folle pour une fille de ma classe. Elle joue avec moi de façon un peu perverse, mais je brûle d'amour, je veux l'épater. Je lui proclame que je vais devenir écrivain et je lui envoie en guise de lettre une page que j'ai recopiée d'un livre écrit par mon ancienne professeure de français. « C'est fantastique, dit-elle. Nina, tu es un écrivain. » J'ai honte. Je suis surtout plagiaire. Mais je dois désormais être à la hauteur et je me mets à lui écrire des lettres enflammées. Je crois vivre une grande histoire.
Jusqu'à ce que ?
Jusqu'à ce qu'elle me trahisse et qu'elle dise à ma sœur un jour... Tu es au courant, ta sœur est homosexuelle. La foudre s'abat sur moi. Ma mère, mise au courant, tombe des nues. La rumeur court très vite dans le lycée. Des parents préviennent ma mère. Désolée, je ne veux plus que ma fille vienne dormir chez vous. J'en suis mortifiée. Je rase les murs. Et je fais encore un truc dingue. Je flirte avec un des plus beaux garçons du lycée et je dis « Ce n'est pas moi, c'est elle, l'homosexuelle. » À mon tour, je la condamne. Et tout le monde rejoint ma cause, ma nouvelle allure féminine m'a rendue insoupçonnable. C'est une cruauté absolue car je l'accuse d'être ce que je suis et je participe à la honte et au rejet de ma véritable identité. J'ai peur. C'est si dur d'être différent.
Comment s'affirmera alors votre identité amoureuse ?
À 18 ans, je ne veux plus me tromper sur ces fausses amitiés et je me décide à aller chez les spécialistes, c'est-à-dire les véritables homosexuels, affirmés. Et je trouve dans Pariscope l'adresse du Katmandou, un club réservé aux femmes. Je m'y rends 4 fois par semaine, je suis la plus jeune, et j'observe ce brassage de femmes issues de tous les milieux qui partagent le même désir. C'est excitant, c'est comme une nouvelle famille. Mais la honte me poursuit lorsque je sors du club au petit matin. Personne ne doit me suivre, je tremble qu'on me démasque, je me sens délinquante. J'écris en rentrant pour laver ma honte, pour acheter ma respectabilité. J'ai cette conviction que si je deviens écrivain, comme j'en ai le désir depuis mes 8 ans, on me pardonnera mon homosexualité. C'est d'une tristesse sans nom.
Quand vous libérez-vous de ce sentiment de honte ?
Et de ma propre homophobie ? Celle que l'on inculque aux jeunes homosexuels en projetant sur elles des fantasmes pervers, alors qu'il s'agit de nature, d'identité et d'amour ? Il me faudra du temps, une thérapie, plusieurs étapes. J'éprouve encore parfois une gêne. Mais il s'est passé en France un événement effroyable qui balaie toute réticence et impose de témoigner. 1 million de personnes ont défilé dans la rue contre le mariage gay. Des parents ont donné à leurs enfants des pancartes diabolisant les personnes comme moi. J'ai beaucoup pleuré. Nous étions si humiliés. Alors si un écrivain a parfois le devoir de parler, c'est le moment. Mon métier, mon milieu me protège, mais je parle pour les autres. Tous ces jeunes gens qu'on jette dans la tourmente, qu'on force à se nier alors qu'ils sont dans leur vérité.
Vous avez enfin conquis votre liberté ?
Oui, j'ai 51 ans et je suis libre. On peut m'insulter. J'ai désormais une arme qui s'appelle la douceur et elle est imparable. Quelle richesse, cette double culture qui fait de moi une Française éclairée de l'intérieur par l'Algérie. Et quelle richesse, cette homosexualité qui fut un long chemin. Elle apprend à vivre dans la marge. Elle apprend à regarder les fragiles. Elle apprend à reconnaître les étrangers. Moi, j'ai appris la tolérance et l'écoute, l'ouverture. J'ai un amour infini pour l'être humain. Nous sommes tous voués au même destin tragique, alors refusons la haine. N'invitons pas la mort dans la vie.
Je ne serais pas arrivée là si... Entretien avec Annick Cogent pour le journal Le Monde, sur une idée originale de Judith Henry. Lu par Judith Henry et Julie Gaillet. Musique originale, Vincent Segal. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc et Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Juliette Eman. Entretien publié aux éditions Le Livre de Poche.